Comme vous le savez peut-être, l'Église a décidé et cherche à étoffer son conseil. Et c'est dans cette perspective que Eric m'a demandé, enfin, a demandé à tous les prédicateurs réguliers de se pencher sur des textes en rapport avec cette problématique. Et je me suis porté volontaire pour parler d'un texte, enfin de deux textes qu'on pourrait presque qualifier d'incontournables dans ce contexte. Il s'agit d'instructions que l'apôtre Paul a données à ses collaborateurs Timothée et Tite concernant le choix des responsables. Le premier, il se trouve dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, il désire une belle tâche. Il faut donc que le responsable ne prête pas le flanc à la critique, qu'il soit l'homme d'une seule femme, sobre, modéré, décent, ami des étrangers, capable d'instruire, pas ivrogne, non violent, mesuré, non belliqueux et n'aimant pas l'argent. Qui conduit bien sa propre maison et maîtrise ses enfants en toute dignité. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Pas un néophyte, pas qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour pas qu'il tombe dans le discrédit et dans les filets du diable. L'assistant de même doit être sérieux, pas fourbe, pas adonné aux excès de vin, pas avare, gardant le mystère de la foi avec une conscience pure. Ils seront d'abord mis à l'épreuve, puis s'ils sont sans reproche, ils serviront. Les femmes de même doivent être sérieuses, pas portées à la médisance, sobres et dignes de confiance en tout. Les assistants doivent être hommes d'une seule femme, qui conduisent bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui servent bien s'acquièrent un beau rang et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et puis, il y a un deuxième texte, comme je vous l'ai dit, dans l'épître de Tite, cette fois-ci, hein, au chapitre 1er, les versets 5 à 9. C'est pour cela que je t'ai laissé en Crète, dit Paul à Tite, pour que tu achèves ce qui restait à régler et que tu établisses dans chaque ville des anciens, comme moi je te l'ai demandé. Si quelqu'un est sans reproche, homme d'une seule femme, qui a des enfants croyants qui n'ont pas la réputation d'être débauchés ou insoumis, car il faut que le responsable soit sans reproche comme gestionnaire de la maison de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni irascible, ni ivrogne, ni violent, ni cupide, mes amis de l'étranger, amis du bien, réfléchis, justes, pieux, solides, persévérants dans l'enseignement de la parole de foi pour pouvoir exhorter par un enseignement sain et réfuter les contradicteurs. En réfléchissant comment bien aborder ces deux textes, je me suis dit qu'ils se prêtent peut-être pas tellement à une prédication de type exhortation, parce que on parle ici, enfin, c'est un texte qui évoque des consignes que Paul donne à un tiers. Je me suis dit, ça se prête peut-être mieux à une espèce de causerie. Hein, et c'est ce que je vous propose ce matin, comme je vous l'ai affiché tout à l'heure, une causerie épiscopale. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je la qualifie d'épiscopale. Mais avant d'aborder vraiment nos textes, je voudrais dire deux ou trois choses sur ce que je crois être la bonne façon d'aborder ce genre de texte. Et d'abord, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul. Quand on prend un peu de recul sur la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons, cette nouvelle alliance offerte en Jésus-Christ, Et quand on la compare avec l'ancienne, et même avec ce qu'on voit dans les autres religions du monde que nous connaissons, on ne peut qu'être frappé par l'extrême liberté dont jouissent les chrétiens. Les religions, y compris celles de l'ancien Israël, ont tendance à imposer tout un tas de choses aux gens. Elles leur donnent des règles alimentaires, vestimentaires. Elles leur imposent des fêtes, des jours particuliers, des moments de prière, peut-être parfois même l'heure de la prière. Elles leur disent comment prier, à quel moment, avec quels mots, et les actes de culte sont minutieusement décrits, prescrits, et parfois même, pour une bonne partie, réservés à une élite, à des professionnels avertis et initiés. Dans la Nouvelle Alliance, plus rien de tout ça. Rien. Pas de fête imposée. Pas de règles alimentaires. Aucune instruction particulière, par exemple, concernant les lieux de culte ou les réunions de culte. On ne nous dit pas comment nous devons nous habiller, comment prier, comment structurer nos réunions. C'est la liberté la plus totale. Ce qui compte désormais, c'est l'intériorité. Et tout le reste, finalement, c'est secondaire. Il faut que nous prions, nous dit la parole, en esprit et en vérité. Mais les gestes et les paroles précises que nous utilisons, peu importe. C'est du domaine de notre liberté. Mangez de tout ce que vous trouvez sur le marché, dit Paul, à condition de ne pas choquer ton voisin. Organisez vos cultes à votre guise, à condition que ça se fasse dans l'ordre et à la gloire de Dieu. Bref, soyez libres. Mais sachez en même temps que Dieu vous jugera de la façon dont vous utiliserez votre liberté. Tout est permis, ou presque, mais tout n'est pas utile. On ne mesure pas toujours, je crois, l'étendue extrême de cette liberté. Et il s'avère que nous avons du mal à la vivre. Parce qu'être libre à ce point-là, ce n'est pas toujours commode. On aimerait bien, de temps en temps, qu'on nous prenne par la main et qu'on nous dise, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, hein, et si tu fais comme ça, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple. On s'invente des règles. On choisit certaines façons de faire, hein, parce que ça s'est bien passé, et puis parce qu'on aime bien faire comme ça. On se donne des habitudes, et avec le temps, ça devient des traditions qui ne sont pas mauvaises en soi, hein. Bien entendu, chacun a sa manière de faire. Dans cette église, nous avons nos manières de faire. Hein. Mais finalement, ces traditions peuvent prendre une dynamique propre et devenir importantes au point d'écraser en fait la liberté initiale voulue par Dieu. Et à la recherche de repères, comme nous sommes désespérés d'être si libres, alors, une façon de faire, c'est de regarder les premiers chrétiens. Et de dire, on va faire comme eux. Parce que c'est biblique. Ça, c'est l'argument de choc. Hein? Et comme ils avaient les apôtres avec eux, ça devait être exactement comme il faut faire. Mais cette approche n'est pas sans risque. Bien sûr, je vous ai dit, nous sommes libres, donc nous sommes aussi libres de nous inspirer, évidemment, de ce qui a été fait. Mais l'entreprise qui consiste à vouloir imiter les premiers chrétiens, elle se heurte vite à ses limites. La première limite sur laquelle nous tombons, c'est que finalement, nous ne savons pas grand-chose sur les premiers chrétiens. Nous savons bien sûr, ici et là dans l'Écriture, des bribes, des petits éléments, on peut déduire certaines choses, on peut voir dans telle phrase, il fait allusion à une telle pratique, donc voilà, on peut construire des choses, on peut avoir une idée approximative de ce qu'ils faisaient. Mais finalement, vu la rareté de ces éléments et leur caractère un peu disparate, ces constructions restent, somme toute, assez fragiles. Ensuite, et ça c'est un risque très sérieux, nous courons constamment le risque de projeter sur eux notre histoire. Et ce risque est manifeste lorsque nous utilisons les mêmes mots qu'eux. Dans notre Église, nous parlons de diacres, d'anciens. Ça, c'est des mots que nous trouvons dans l'Écriture. Mais il ne faut pas oublier que quand nous parlons de diacres, d'anciens ou d'évêques, ce sont des mots qui ont pris un sens au cours de l'histoire qui n'était pas nécessairement le sens initial. Et donc, avec tous ces bagages, on arrive et on lit ces textes comme s'ils parlaient des choses telles que nous les concevons. Ensuite, il ne faut pas non plus oublier que les premiers chrétiens étaient dans un contexte historique précis et leur pratique portait le sceau de ce contexte. Et puis, aussi, leur pratique était marquée par le péché, comme toutes nos pratiques. Eux, ils n'étaient pas exempts de ça. Et on le voit quand on lit les textes du Nouveau Testament. Quand vous lisez ce que Paul écrit aux Corinthiens, vous dites, leur culte, c'est quand même catastrophique. Ou même la sacro-sainte église de Jérusalem n'y échappe pas. On le voit dans les Actes, par exemple. Il y a de l'hypocrisie dans cette église. On le voit dans l'épisode de Ananias et Saphira. Les gens mettent tout en commun, mais pas tous volontaires. Il y a comme une pression de groupe sur les gens. Et ils se sentent obligés de faire semblant, voyez-vous. C'est quand même pas tout rose. Et puis, acte 6, on en parle tout à l'heure, l'établissement de ces serviteurs de table, eh bien, eux aussi, le problème part en fait de tensions ethniques qui sont dans cette église. Donc, voyez bien, il ne faut pas singer l'église primitive. Elle est imparfaite, elle porte les marques de son temps. Et finalement, nous savons bien trop peu sur elle pour avoir des certitudes concernant ses pratiques. Donc, les textes que nous avons, comme ces textes-là, sont évidemment précieux pour nous. Ils sont marqués du sceau apostolique. Mais pas pour singer ce qui se faisait autrefois, mais pour essayer de la motivation profonde, ce qui sous-tend leur pratique telle que nous le percevons, et ensuite essayer de décliner dans notre contexte, qui est tout différent, un peu ces principes de base plutôt que les manières exactes de faire. Alors, il faudrait que je parle un petit peu de terminologie parce que maintenant je veux quand même venir à ces deux textes. Et quand on voit ces deux textes, on voit apparaître des problèmes de dénomination, de terminologie. Alors, quand j'ai traduit ce texte, j'ai traduit ici, au verset premier, un mot par responsable. C'est une traduction éminemment contestable. Et j'en suis bien conscient, mais je n'ai pas trouvé mieux. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment c'est traduit dans vos Bibles. Est-ce que vous avez regardé comment ce mot est traduit? Pardon? Évêque. Ça, c'est très intéressant. Il y a d'autres traductions? Dirigeant, oui.
Épiscope.
Alors là, on a la totale. Moi aussi, dans la traduction que j'utilise habituellement, c'est traduit par épiscope. Moi, ce genre de traduction me donne des boutons. Parce que, en fait, les gens n'ont pas traduit, ils ont transcrit le grec. Parce que le mot grec qui est utilisé ici, c'est épiscopos. Épiscopos, si vous voulez traduire littéralement, ça veut dire celui qui regarde d'en haut, celui qui surveille. Alors, on hésite à traduire surveillant parce que ça fait penser aux prisons et aux examens. Et c'est pas certainement pas ça la notion de base. C'est pas le type qui garde l'œil sur tout. Alors, évêque, c'est la traduction, c'est la traduction normale. C'est le correspondant en fait. Tire son origine exactement de ce mot. Le problème avec la tradition évêque saute aux yeux quand même, c'est que quand vous pensez à un évêque, Vous pensez à un bonhomme comme celui que je montrais tout à l'heure. Enfin, en tout cas, moi, hein, c'est un haut dignitaire catholique avec sa robe noire, son chapeau violet. Hein. Et ce n'est pas de ça qu'il est question ici, bien entendu. C'est là exactement ce qu'on voit, ce que je disais tout à l'heure. On projette sur ce texte, hein, surtout si on utilise les mêmes mots, on projette des choses, des images mentales qui n'ont rien à voir avec ce texte. Dirigeant, responsable, vous voyez, toutes ces traductions sont possibles, chacune a sa faiblesse. Finalement, c'est une question de mots, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière maintenant, hein? Qui sont-ils, ces épiscopes, si vous voulez? Qui sont-ils? Et la réponse est, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Parce que c'est assez rarement qu'on en parle dans l'Écriture. C'est manifeste dans le contexte que ce sont des espèces de responsables dans l'Église. Mais de dire précisément quelle était leur place dans l'organigramme, je suis bien incapable de vous le dire. Je ne sais pas. Hein? Et je n'ai pas trouvé dans l'Écriture quelque chose de très très clair à cet égard. Ceci étant dit, si vous regardez de près le texte Tite, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Parce que il parle d'abord des anciens, tout établi dans chaque ville, des anciens d'église. Et ensuite, il va dire, mais il faut que l'épiscope, hein, le responsable, soit sans reproche. Et ça, ça a conduit beaucoup de gens à dire, bah, c'est la même chose. Hein, finalement, c'est juste une autre façon de dire ancien. Alors, ancien, parlons-en un petit peu. Ancien, ça, c'est quelque chose qui nous est un peu plus familier. On parle d'anciens dans nos églises. Et aussi, on a un peu plus d'éléments dans l'Écriture pour discerner ce que c'est. Parce que ça existe dès l'aube du temps. Dès que le peuple d'Israël existe, il est structuré avec des anciens. Et Moïse est accompagné par un certain nombre d'anciens. Les anciens, ce sont des chefs de famille. Ce sont des dignitaires, des patrons, des petits patriarches, pourrait-on dire, hein, à petite échelle, hein, qui gèrent en fait une famille, mais au sens étendu, tous les gens qui habitent ensemble dans une maison. Ça, c'est les anciens. Et on les connaît bien. Ce sont des gens, des notables, un peu comme Job l'a été. C'est des gens qui se réunissent pour régler les affaires de la ville ensemble. Et quand l'Église a été fondée, on a utilisé ces éléments pour la structuration de l'Église. On s'est inspiré de ce modèle et on a nommé des anciens. Hein. L'Église, au départ, était une Église de maison, vous le savez. Hein, les Églises bâtiments comme celui-ci, ça n'existe qu'à partir du IIIe siècle, je crois. On se réunissait dans les maisons et naturellement, je dirais, probablement, les chefs de maison ont aussi pris la responsabilité dans l'Église. Ici, donc, on pourrait dire les anciens et les responsables, c'est la même chose. Mais je dois vous quand même vous avertir que c'est peut-être pas si simple que ça. Et là, on touche de nouveau à cette fragilité de notre connaissance du premier siècle. Certains ont pensé que l'épiscope est un ancien, mais que tout ancien n'est pas un épiscope. Par exemple, ça pourrait être une configuration où l'épiscope, l'évêque, le responsable, est en quelque sorte le président du conseil des anciens. Il est possible qu'il existait au sein de ces structures une personne qui présidait. Et tous les textes, à ma connaissance, que nous avons, seraient aussi compatibles avec cette lecture-là. Ceci étant dit, on n'a pas non plus d'indices pour vraiment l'affirmer. Mais c'est pour vous dire, soyez prudents dans ce genre d'affirmation, parce que finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il en était. Et puis, dans le texte de Timothée, vous trouverez un autre personnage. Là aussi, on a l'impression qu'on le connaît mieux, mais attention, toujours ce risque de projection, c'est ce que j'ai traduit par assistant, hein, et qui, je pense, la plupart du temps, est traduit par diacre. Enfin, là encore, ce n'est pas une traduction, c'est une transcription. On dirait que c'est diakonos. Et diakonos, ça veut dire celui qui sert, hein, le serviteur. Qui sont-ils, ces diacres? Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça c'est simple. Hein, il y a les anciens, c'est des choses spirituelles. Hein, on entend dire ça, et peut-être moi-même, j'ai pu dire des choses comme ça. Plus je regarde les textes, moins je suis sûr de ces choses. Donc, on dit les anciens, c'est les choses spirituelles, les diacres, c'est les choses pratiques. Ah bon ? Quand on regarde la liste de qualités requises, ça ne transparaît pas. On ne dit pas, il doit être doué manuellement ou je ne sais pas, ou pour des choses pratiques. Non, non, la liste, vous allez voir, est assez semblable pour les deux. D'où est-ce que ça vient, cette idée que le diacre, c'est nécessairement du pratique ? Je crois que ça vient d'Acte 6, que j'ai déjà mentionné, cette histoire de service à table, où les apôtres ont dit, non, alors franchement, les tables, ce n'est pas notre affaire. Nommez quelqu'un qui s'en occupe. Nous, on fait de l'enseignement. Très bien. Le souci, c'est que ces gens-là ne sont jamais appelés diacres. Dans Acte 6, vous ne trouverez pas le mot diacre. Est-ce qu'ils étaient des diacres ? Peut-être, probablement, je dirais. Mais là encore, pas de certitude. Et puis, je vous ai dit, les qualités qu'ils ont, c'est une autre spiritualité. Donc, dire que les diacres sont nécessairement des gens, je dirais, pour les tâches subalternes, on prend certains risques en affirmant ça. On simplifie très certainement. Quand vous regardez les gens d'Acte 6 comme Étienne ou comme Philippe, vous avez des gens d'une très haute valeur. L'un est prédicateur, un très bon prédicateur. L'autre est un des premiers évangélistes d'envergure. Donc, ce ne sont pas nécessairement des gens qui s'occupent que de faire la vaisselle. Bon. Maintenant, il faut quand même que je parle un petit peu de qualité requise de la liste. Mais je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons deux listes, une de Timothée et une de Tite. Et vous comparez les deux, vous voyez tout de suite que ce n'est pas les mêmes. Il y a des éléments communs, il y a des éléments qui sont textuellement les mêmes, et d'autres qui sont assez différents. Ce qui me suggère, à mon sens, c'est que ces listes ne sont pas à prendre à lettre, je veux dire. Ce sont des listes approximatives, non exhaustives, et puis adaptables. Ce n'est pas une checklist. On l'utilise parfois comme ça. Schlack, est-ce qu'il est ça ? Oui, schlack. Oui. Ah non, là non, ah donc il ne peut pas être ancien. Bon. Ça ne semble pas être de ce type-là. Mais si on regarde, si on prend un peu de recul par rapport à ces qualités que nous avons lues ensemble, qu'est-ce qui se dégage ? Quel genre de personne Paul veut-il voir nommer à des postes d'anciens ou de diacres ? Moi, je pense pouvoir dire que ce que Paul cherche pour ces postes, on pourrait dire que c'est des bons pères de famille. Des gens solides, matures, respectés, irrespectables, qui vivent d'une manière qui fait transparaître leur foi authentiquement, qui ne sont pas dans l'excès, qui conduisent bien leur propre maison, qui ont fait leurs preuves, qui ont une certaine expérience de la vie. Bref, on est un peu dans ce modèle ancien d'anciens, justement. Ce sont des gens qui dirigent bien leur famille et qui peuvent aussi prendre en charge l'Église, à condition que leur vie reflète les valeurs, je dirais, de la foi chrétienne. Un peu comme Job, voyez-vous, ce type notable, apprécié à la ville, qui siège aux portes, qui tranche les disputes. Et donc, finalement, ce n'est pas si surprenant que ça que l'épiscope porte aussi le titre d'ancien. Ça les situe très bien, me semble-t-il, dans cette lignée. Alors, deux aspects peut-être qu'on pourrait souligner, qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'il nous est dit et redit, et ça fait partie des trois listes, qu'il doit s'agir de l'homme d'une seule femme. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et encore, je vais au regret de vous dire, on ne sait pas à 100% ce qu'il faut entendre par là. Et plusieurs choses ont été proposées. Très certainement, ça exclut les polygames. Là, il n'y a aucun doute. Un homme qui a 5 femmes ne se qualifie pas. Mais est-ce que c'est tout ? D'autres ont pensé que non, c'est peut-être plutôt qu'il ne doit pas être divorcé et remarié. En quel cas, il aurait en quelque sorte deux épouses. D'autres ont même étendu la notion au veuf. C'est-à-dire, s'il a perdu sa femme, il n'a pas dû se remarier. Un remariage l'aurait disqualifié. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'interprétation qui prévaut dans l'Église orthodoxe. Un pope, il n'a pas le droit de se remarier. C'est pour ça qu'on dit « soyez comme la femme d'un pope », parce qu'il s'en occupe bien, sachant que s'il la perd, il n'en aura pas d'autre. Ceci étant dit, je doute un peu que ce soit ça. L'interprétation qui me semble la plus satisfaisante que je vous propose, c'est que ça doit être quelqu'un de foncièrement fidèle. C'est-à-dire un homme qui a sa femme et qui ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi, j'ai un collègue très charmant qui est tout le temps dans la séduction. Dès qu'il y a une femme qui se pointe, il est là. Je ne pense pas que ça va plus loin que ça. Mais il est tout le temps dans ce rapport de séduction. Je crois que ça le disqualifierait, par exemple, pour un poste de type ancien. Bon, et en plus, il est bas chrétien, ça tombe bien. L'autre aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que quand vous lisez ces listes, vous allez vous rendre compte que l'extérieur compte. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui compte dans la Nouvelle Alliance, c'est l'intériorité. Il faut nuancer. Pour ces postes de responsabilité, la visibilité extérieure est importante. Il faut que ce sont des gens qui non seulement sont respectables, mais qui sont respectés aussi dans le monde. Et ça, ça peut surprendre un petit peu, mais on veut des gens qui aient le respect aussi aux yeux de l'extérieur. Parce que l'Église va être sous attaque. Et il ne faut pas que la personne du responsable, tant que telle, prête le flanc à cette attaque. Il faut que cette attaque reste de nature spirituelle. Et si on a des gens qui ne sont pas respectables aux yeux du monde, ça peut poser problème. Maintenant, une question intéressante. Où situer la limite entre l'ancien et le diacre, ou l'épiscope et le diacre? Et si vous lisez les listes, je vous l'ai déjà dit, vous avez à peu près les mêmes qualificatifs pour les deux. Donc le genre de personne qu'il faut pour ces deux ministères, c'est à peu près le même. Il y a deux différences qui méritent d'être soulignées, me semble-t-il. La première, c'est un peu subtile, je la dois à Samuel Benetro. Je trouve ça très pertinent, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous l'expliquer rapidement. En fait, il part du constat que les deux ministères ne sont pas présentés de la même façon. On vous dit tout go de l'épiscope que sa tâche est une belle tâche. Ce qui veut dire, probablement, c'est que sa tâche, elle est belle, mais c'est manifeste. Il a une place en vue. Et c'est une place enviée par certains. Alors que pour le diacre, on dira, si vous l'avez lu, que s'il sert fidèlement, il s'acquiert un beau rang. Et Benetro dit, ça on ne le dirait pas si la tâche en soi était très enviable. Et je crois que c'est pertinent. C'est-à-dire là, on nous signale de manière un peu indirecte que la tâche de diacre, elle va être un peu plus ingrate que l'autre. Et peut-être on retrouve là cette notion de tâche plus pratique, ou plus organisé, enfin, qui relève davantage d'aspects pratiques. En tout cas, il semble que la tâche du diacre, elle n'est pas aussi valorisante que l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut des gens moins qualifiés pour elle. Ce ministère-là semble être un peu plus humble que le ministère épiscopal. Et puis, plus important encore, c'est pour ça que j'ai choisi cette image pour l'illustrer. Ce qui ressort clairement des textes, et la différence la plus nette entre les deux, c'est que l'épiscope doit être capable d'enseigner. Lui, il doit être capable non seulement d'apporter un enseignement, mais aussi, je dirais, dans le conflit, il doit être capable de s'opposer aux contradicteurs. Donc il est un peu le théologien de service qui défend l'Église aussi sur ce plan-là, ce qui n'est pas demandé aux diacres. Donc, me semble-t-il, la grande différence entre les deux ministères, c'est que l'un doit être capable d'enseigner, l'autre non, pas nécessairement. Mais la différence ne se situe pas, encore une fois, sur le plan de la spiritualité. Donc, encore une fois, quand on attribue dans notre schéma les choses spirituelles à l'ancien et les choses pratiques au diacre, je crois qu'on sursimplifie. Ce qu'on peut certainement dire, c'est que l'enseignement, dans ces aspects-là, sont réservés à l'ancien. Et le diacre peut très bien toucher à des choses qui ont trait au spirituel, mais qui sont autres que l'enseignement. Dernière question, je ne m'y attarderai pas non plus énormément. Qu'en est-il des femmes? C'est quand même une question importante dans notre contexte. Est-ce que les femmes peuvent prétendre à ces tâches, oui ou non? Nous vivons dans une période qui est très éprise d'égalité. On veut même, je dirais, abolir les différences. L'Écriture, me semble-t-il, nous propose un autre schéma. Et donc, il faut que nous nous posions la question, est-ce que ces tâches sont accessibles aux femmes? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il est question des femmes. Et c'est dans Timothée, lorsqu'il parle des diacres. Et il dit, et les femmes de même, et il donne un certain nombre de critères. Ce qui pourrait suggérer que le ministère diaconal est ouvert aux femmes. Ceci étant dit, cet argument textuel n'est pas non plus d'une force extrême, parce que on ne sait pas de quelle femme il est question. Est-ce que ce sont les femmes diacres, les diaconesses, je le pense personnellement, ou est-ce que ce sont les femmes des diacres, parce qu'on parle des qualificatifs des diacres, et il est, sur le plan purement textuel, tout à fait possible d'imaginer qu'il s'agit de conditions pour les épouses de ces hommes. Je ne le pense pas, parce que ça serait étonnant que les mêmes conditions n'apparaissent pas du tout pour les anciens. Donc, en quelque sorte, il y aurait des contraintes pour les épouses de diacres, mais pas pour les épouses d'anciens, ce qui paraît peu probable. Mais ceci étant dit, je voulais juste vous dire, ce texte-là, en soi, n'est pas forcément d'une grande force dans la discussion. Ceci étant dit, on trouve dans l'Épître aux Romains une diaconesse à l'Église de Rome, une certaine Phoebé, et donc nous savons qu'au moins à Rome, les femmes accédaient à ces charges, sans que ça chagrine qui que ce soit. Et donc je pense qu'on peut effectivement retenir que le ministère diaconal est tout à fait ouvert aux femmes. Maintenant, pour les épiscopes, est-ce qu'une femme peut être ancien? Est-ce qu'elle peut être épiscope? Évidemment, on marche un peu sur les œufs en abordant ces questions. Je pense que ces deux textes-là que nous avons vus ne nous permettent pas à eux seuls, d'exclure la possibilité. Il faut quand même être honnête. La nature des textes, il faut toujours en tenir compte lorsqu'on les interprète. De quoi est-il question ici? Paul donne des consignes à des collaborateurs, Timothée et Tite, pour instituer des responsables à Éphèse et sur l'île de Crète. Et il ne suggère aucunement qu'il puisse nommer des femmes à ce poste d'épiscope. Et je pense qu'il était totalement hors de question, à Éphèse et à Crète, de nommer des femmes à ces postes. Et Paul ne s'attarde pas, mais comme son enseignement, je dirais, est circonstanciel, ce n'est pas un enseignement général, pour toute éternité, il me semble malaisé d'en tirer une telle conclusion. Maintenant, ayant dit cela, je pense que cette question-là ne peut pas se trancher sur le seul fondement de ces deux textes que j'ai lus. Et je n'ai pas le temps d'aborder ça, mais dans d'autres textes du Nouveau Testament, et notamment dans un autre texte, dans 1 Timothée, Paul fait des affirmations beaucoup, beaucoup plus générales, en invoquant des arguments de type créationnel, donc des arguments qui perdurent, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances. Et sur la base de ces textes-là, que je ne veux pas aborder maintenant, personnellement, j'arrive à la conclusion que le ministère d'anciens, d'épiscopes, n'est pas ouvert aux femmes dans la perspective de la Nouvelle Alliance. Je m'avance un peu en disant ça, et je ne vous apporte pas la preuve, mais ma conclusion personnelle, non pas sur la base de ces deux textes, encore une fois, est que ce ministère-là, dans une perspective biblique, est réservé aux seuls hommes, n'en déplaise aux féministes. Dans quelques semaines, vous serez appelés à nommer des anciens et des diacres pour cette Église. Les deux textes que nous avons lus ne vous impose rien en ce sens. Mais je crois qu'il nous donne une bonne idée de critères de choix. Parce que Paul invite Timothée à équiper l'Église de dirigeants qui sont des gens sérieux, expérimentés, qui ont fait leur preuve, notamment dans leur vie personnelle et familiale, et qui reçoivent un bon témoignage à la fois dans l'Église et à l'extérieur. C'est ce genre de personnes qu'il faut discerner, me semble-t-il, à la fois pour le diaconat et pour l'ancienat. Si la personne qui correspond à ces critères est capable d'enseigner et de réfuter les contradicteurs, si elle a les capacités de le faire, naturellement, cette personne devrait être nommée ancien épiscope. Si cette personne n'a pas ses compétences, ou n'a pas encore montré qu'elle les est, je pense que la place de choix pour elle serait une place de diacre.